Déclic Macron président avec Brice Couturier et Luc Ferry. Il n'a jamais été parlementaire. Il n'a pas fait ses classes dans un grand parti. Il a fondé un mouvement qui porte ses initiales, En Marche, et, battant tous les vieux briscards, il a été élu à 39 ans président de la République française. Dans un pays habitué depuis 1981 à l'alternance entre la droite modérée et la gauche social-démocrate, ce scénario est stupéfiant. Personne ne l'avait prévu. Reste maintenant à le penser. J'ai invité pour ce faire Brice Couturier, l'une des voix de France Culture, qui publie Macron, un président philosophe, et un philosophe, qui a été lui-même ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry. Je voudrais pour commencer leur rappeler les propos tenus par Emmanuel Macron tout au long de sa campagne. Le véritable clivage aujourd'hui, a-t-il martelé, n'est pas entre la droite et la gauche, mais entre les conservateurs passéistes qui proposent aux Français de revenir à un ordre ancien et les progressistes réformateurs qui croient que le destin français est d'embrasser la modernité. Est-ce cela la révolution macronienne, non pas seulement une nouvelle offre politique, mais la péremption du vieux monde et, sous l'impulsion d'un chef charismatique, l'émergence d'un nouveau paradigme, Brice Couturier.
Oui, en effet, on peut dire que Macron a enterré le vieux monde politique, mais en fait, il l'a enterré alors qu'il était déjà condamné depuis déjà quelques temps. En réalité, on a assisté à une espèce de syndrome de l'essuie-glace qui fait que depuis 1981, à une exception près, toutes les majorités gouvernementales ont été battues aux élections législatives suivantes. Ce qui posait quand même quelques problèmes. Il s'est montré qu'il y avait une usure du système, une véritable entropie de notre système politique. On était arrivé au bout de quelque chose. Par ailleurs, vous venez de le mentionner, les clivages fondamentaux qui avaient organisé notre vie politique entre une droite modérée et une gauche modérée étaient eux-mêmes arrivés en bout de course, puisque sur les grands sujets qui nous importent vraiment, comme l'Europe, la mondialisation et la place de la nation dans cette mondialisation, le rôle de l'État dans la redistribution sociale, les grands débats de société qui ont été le mariage pour tous et d'autres sujets de société qui nous attendent, sur tous ces sujets, on voyait bien que la droite et la gauche ne coupaient pas les clivages fondamentaux. Ils avaient lieu à l'intérieur de ces deux formations. Macron en a simplement pris acte. Il l'avait compris quand les autres ne l'avaient pas compris et pensaient qu'on pouvait continuer à l'identique avec ce syndrome de l'essuie-glace, que la droite allait remplacer la gauche par une espèce de droit divin. L'opposition devait accéder au pouvoir au bout de 5 ans. Ça devenait une espèce de règle. L'électorat était là de cette alternance qui ne changeait rien en réalité profondément. L'électorat, je pense, était en demande de réformes radicales, il ne les obtenait pas, il a trouvé cet outsider. Je fais une autre remarque purement comptable de l'électorat. Les partis de gouvernement ont obtenu à eux deux 26% des voix quand les partis extrémistes et populistes en obtenaient plus de 40. Alors, qu'est-ce que c'est que des partis de gouvernement qui, à eux deux, n'obtiennent plus que 26% des voix? On voyait bien que ces deux partis, les Républicains à droite et les Socialistes à gauche, ne représentaient plus grand-chose et avaient lassé leurs électorats. On était au bout d'un système et il y avait un risque sérieux de voir au deuxième tour, un affrontement entre les deux populistes qui était, à mes yeux, un risque de guerre civile avéré.
Luc Ferry.
Je partage une partie de cette analyse, mais pas l'essentiel. Et donc, je vais vous dire pourquoi. Je pense d'abord que l'échec de la droite est anecdotique. La droite s'est pris le pied dans le tapis et normalement, elle devait gagner. Et donc, le score de la droite et de la gauche réunis n'aurait pas été de 26%, mais beaucoup plus, il aurait été de 40%. Dans une situation normale, bon, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir, mais c'était totalement imprévisible. L'échec de Fillon était totalement imprévisible. Et si aux primaires, la gauche avait voté pour Manuel Valls et la droite pour Juppé. Alors je sais qu'avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille, mais imaginons cette hypothèse qui n'eût pas été totalement absurde. Macron eût été à 5%. Donc je ne crois pas du tout à la révolution. Je ne crois pas du tout à ça. Je pense que la situation aujourd'hui, tout à fait indépendamment du programme de Macron, qui n'est pas mauvais à mes yeux, en tout cas pas entièrement mauvais, loin de là, indépendamment de sa personnalité, c'est pas ça qui m'importe, la situation aujourd'hui est catastrophique, beaucoup plus qu'avant. Pourquoi ? Parce que la France est en vérité divisée en 5 morceaux. quasiment équivalents entre eux, à quelques points près. Mais il y a un gros Front National, il y a une grosse France insoumise, il y a malgré tout un parti de droite républicaine qui va revenir. La gauche socialiste, elle est aujourd'hui dans les choux, mais elle n'est pas définitivement morte. Et puis il y a le centre qui n'est pas droite et gauche. Tout le monde s'y trompe. C'est pas droite et gauche, c'est ni droite ni gauche. C'est pas parce qu'il y a des gens de droite et des gens de gauche que...
Ah oui, mais c'est pas ce que voilà. dit Macron. Mais
il a tort.
Et droite et gauche. Il refuse le terme
mais c'est
ni droite
ni gauche. Et donc, la vérité, c'est que les grands partis de droite et les grands partis de gauche, les quatre, restent en dehors aujourd'hui du gouvernement. Ce qui fait que la France est divisée en cinq. Et ce qui me gêne énormément dans la situation actuelle, encore une fois, indépendamment du programme de Macron ou de sa personnalité, c'est pas ça le problème. C'est que la démocratie, c'est l'alternance. Et l'alternance, pas parce que c'est comme ça aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, etc. C'est pas une question factuelle. Karl Popper, le plus grand philosophe des sciences, avait fait une comparaison entre la science et la démocratie. Il disait, la science et la démocratie ont un grand point commun, c'est argument et contre-argument, conjecture et réfutation. Or aujourd'hui, et c'est ça qui m'inquiète énormément dans la situation, quand le centre est au pouvoir, est-ce qu'il est le cas aujourd'hui quand le ni droite ni gauche est au pouvoir, puisqu'encore une fois, ni la gauche démocratique, ni la droite républicaine ne sont aujourd'hui dans le gouvernement, ce sont des personnes qui sont dans le gouvernement, mais pas les partis. Et donc ce qui me gêne énormément, c'est justement, c'est d'ailleurs ce que disait Brice tout à l'heure, et je le rejoins là-dessus, en cas d'alternance aujourd'hui, l'alternance se ferait avec les extrêmes. Et donc je suis à fond pour la reconstitution d'une gauche démocratique et d'une droite républicaine. Pour moi, c'est vital. Voilà pourquoi je pense que la gauche a eu grand tort de virer Manuel Valls, c'était le seul qui pouvait reconstituer cette gauche démocratique, et j'espère que Laurent Wauquiez va reconstituer une droite républicaine, sinon l'alternance se fera entre le centre et les extrêmes. Et non seulement l'alternance, c'est le dernier point, je m'arrête là, mais les arguments échangés aujourd'hui, c'est ça le problème. Les arguments échangés aujourd'hui dans le débat public sont entre des centristes et des extrémistes. Eh bien, c'est une situation, à mes yeux, calamiteuse. Donc, c'est pas du tout la révolution annoncée, c'est une calamité. Et encore une fois, c'est indépendant des qualités ou des défauts de Macron.
Alors, quand même, je repose ma question. C'est-à-dire, que pensez-vous de cette affirmation macronienne qu'il existe un nouveau clivage? Qu'est-ce que c'est que ce terme de progressiste qu'il emploie, le progressiste dont le destin ou la finalité est d'embrasser la modernité, alors que les conservateurs sont attachés au vieux monde? Vous reconnaissez-vous dans ce clivage? Est-ce cela l'apport, Brice Couturier, du Macron philosophe à la vie politique et à la vie intellectuelle française?
Non, ça ne me suffit pas, disons. Juste une remarque préliminaire. Quand Luc Ferry dit la droite méritait de gagner, elle devait gagner, je ne suis pas d'accord.
Elle devait gagner. Non, j'ai jamais dit mériter.
Luc Ferry, la droite
méritait de perdre.
La droite aux législatives, il s'était pas Fillon là. Ouais. Toute la droite, les Républicains plus UDI plus divers droites, a fait 21,6% des voix. Donc ça prouve bien qu'il n'y avait pas d'aspiration à ce que la droite revienne au pouvoir.
C'est
pas
ce que je dis. Je dis que la France est divisée en cinq, Brice. Hein.
Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec Luc Ferry quand il dit que le risque, effectivement, c'est l'absence d'alternance. Il me semble que nous vivons une situation exceptionnelle et que nous en avons déjà vécu dans le passé. C'est pourquoi j'aime bien ce que dit Jacques Julliard quand il dit que nous vivons un moment saint-simonien de notre histoire. C'est exactement ça. Un moment saint-simonien, c'est précisément quand nous sommes au bord de la guerre civile, que nous faisons appel à un pouvoir fort pour empêcher les extrêmes d'en venir à la guerre civile et d'apaiser les esprits par un gouvernement d'experts, de compétences et de technocrates. Mais je me dérobe pas à votre question, Alain Finkielkraut, sur progressiste et conservateur.
Je vais y venir aussi.
progressiste, oui, dans le sens où précisément il s'agit de prendre date du fait qu'un système politique qui a structuré le débat démocratique dans notre pays depuis 1981 est épuisé et qu'il faut en inventer un autre. Mais moi, je ne pense pas qu'il suffirait de regonfler les vieilles baudruches que Macron a fait exploser de façon remarquable, qui étaient le Parti Socialiste et les Républicains. Moi, j'en parle au passé. Je pense que les mouvements d'opposition sont encore à naître, que nous les verrons, bien sûr. J'espère qu'ils ne se feront pas sur le clivage droite-gauche, parce que celui-ci me semble en effet dépassé. Comme je le disais tout à l'heure, sur les grands enjeux, le clivage droite-gauche ne recoupe pas les camps en présence. Ce que j'entends, moi, par progressiste, populisme, c'est l'idée qu'on accepte cette situation nouvelle qui fait qu'effectivement, on n'est plus dans l'alternance, on n'est plus dans le syndrome de l'essuie-glace, quelque chose de nouveau est en train d'émerger, qui me fait penser à ce qui s'est passé en 1958, quand De Gaulle aussi a bouleversé le jeu politique. Le jeu politique s'est réorganisé après lui, mais il a d'abord fallu faire exploser un système qui était caduque, qui avait encore un parti radical et des survivances du passé dans ce truc.
Alors, vraiment, sincèrement, c'est pas du tout pour polémiquer, mais je pense que Macron n'a rien fait exploser du tout. Je pense que Hollande a tué la gauche et que Fillon a tué la droite, pour dire les choses d'une formule. Et la mer Rouge s'est ouverte devant lui. Il a eu l'audace de profiter du kairos, de l'événement, la fortuna, comme disait Machiavel, mais c'est juste l'audace de profiter du moment. C'est très bien, chapeau, j'aurais pas fait comme lui. On admire toujours ce qu'on n'est pas capable de faire, et je dis bravo. Mais c'est pas du tout lui qui a tué les partis politiques. Encore une fois, la France est divisée en 5, indépendamment de Macron. Et donc, sur la question d'Alain Finkielkraut, je reviens. Ce que nous vivons, Macron est un vrai libéral. Il a d'ailleurs des réformes qui sont pour... je suis aussi un libéral. Je suis à la fois, pour reprendre les catégories de Régis Debray, démocrate et républicain. C'est-à-dire, je suis libéral et républicain. Et donc, j'admire et j'applaudis aux réformes libérales. Je pense, par exemple, qu'on en parle peu parce que c'est technique. La flat tax à 30% sur les revenus du capital, c'est une très très bonne chose parce que ça évite aux entreprises françaises d'aller s'installer à l'étranger. Donc ce sont des mesures que je salue, comme la réforme du Code du travail. C'est pas le problème. Le problème, c'est que, et ça, mon côté républicain ne s'y reconnaît pas, et je rejoins là la question d'Alain Finkielkraut, ce que nous vivons, c'est évidemment l'américanisation du monde. Je voyage beaucoup. Je fais plusieurs fois le tour du monde chaque année, et partout où je vais,
quelle chance, vous avez.
Je vois les... Oh non, c'est atroce. Les gens sont ravis, ils disent « Ah, c'est formidable, enfin, la France, mais ce qui se passe chez vous est merveilleux, les Américains sont ravis, les Allemands sont ravis, les Suisses encore plus, les Suisses qui sont un pays très libéral, c'est formidable. La fin de l'exception française, oui, en effet, nous sommes devenus des démocrates libéraux à l'anglo-saxonne, avec l'écriture inclusive, avec l'écologie partout, avec le celles et ceux en permanence, et donc, y compris la signature des traités, des lois devant les caméras de télévision, ce qui est une habitude totalement américaine, qui n'a jamais été une habitude française. Alors c'est peu de dire qu'on n'est pas dans les tontons flingueurs. Tous les symboles américains sont là. L'américanisation du monde est en marche. Et pour reprendre les catégories de Régis Debray, Macron est un pur démocrate. C'est un vrai libéral à l'anglo-saxonne, ce qui a des avantages sur le plan économique. Mais il n'est pas du tout républicain au sens traditionnel, au sens Régis Debray du terme. Voilà. Et ça me manque terriblement. Autrement dit, il n'est pas du tout gaulliste. Moi, je suis un vieux gaulliste et je suis à la fois un libéral et un républicain. Et c'est ce côté républicain qui me manque cruellement dans la politique de Macron. Le celles et ceux, l'écriture inclusive, je rappelle que le logo d'En Marche à l'Assemblée nationale, le sous-titre est en écriture inclusive, donc qu'on ne me dise pas que Édouard Philippe et Emmanuel Macron ne sont pas au courant. Ils sont au courant.
Édouard Philippe a quand même interdit l'écriture inclusive dans les textes officiels.
Le logo
est opposé.
Très bien, ça c'est en parole. Mais c'est comme toujours, c'est les paroles. Mais le logo d'En Marche, il est en écriture inclusive. Oui. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Le logo d'En Marche à l'Assemblée nationale, c'est n'importe où. Et Castaner a rédigé sa profession de foi en écriture inclusive. Donc on a tous les symboles de l'américanisation du monde. Et en effet, les étrangers se réjouissent. Ils disent c'est la fin de l'exception française, c'est-à-dire du républicanisme à la française, du gaullisme, c'est la fin de l'anti-américanisme, etc. Français, c'est la fin de l'exception française. Ils sont ravis. Ben, je vais vous dire, quand les étrangers sont ravis de ce qui se passe en France, j'y regarde à deux fois.
Je voudrais moi-même apporter ma propre réponse à la question du progressisme. Il me semble que le progressisme d'Emmanuel Macron, celui qu'il propose, tient en fait, et ça rejoint un peu ce que dit Luc Ferry sur l'américanisation, tient en fait dans une vision économique du monde. Embrasser la modernité, il me semble que cela veut dire mettre de l'huile dans la machine à produire et à consommer. Supprimer les statuts sclérosés et contraignants, par exemple, et j'ai sous les yeux un article que je trouve très intéressant de Natacha Polony, il y a quelques semaines dans Le Figaro. Il était intitulé « La première faille du rêve Macron ». Et il portait sur la conférence sur les territoires que le gouvernement a organisée il y a quelques semaines. Et le Premier ministre a égrené un certain nombre de promesses, dont un grand plan numérique qui promet la fibre optique dans les lieux où parfois les portables ne capent toujours pas. Mais une mesure n'a pas été prise alors qu'elle avait été proposée par un député de La République En Marche, c'est-à-dire un moratoire sur les extensions et créations de zones commerciales. Cela, le gouvernement ne l'a pas voulu, et je trouve ça très révélateur, parce que, en effet, il faut produire et consommer toujours davantage. De même, on va taxer la rente et au contraire soustraire à l'impôt les valeurs mobilières, c'est-à-dire toujours plus de fluidité. Et donc j'ai l'impression que ce progressisme consiste à mettre la politique au service de l'économie, alors qu'il me semble qu'elle devrait être de toute urgence, et quelle que soit la famille politique, mise au service de la civilisation. Macron, c'est la fluidité du monde. Il me semble que le grand critère de la politique, ce devrait être l'habitabilité du monde. Et cela me manque terriblement dans l'offre politique actuelle, et notamment dans celle que Emmanuel Macron incarne. On pourrait dire la même chose autour des ravages du néo-tourisme de masse, etc., etc. Que faire face à tous ces processus? Est-ce qu'il faut toujours mieux s'adapter? Est-ce que l'économie est l'horizon ultime de notre vie collective?
Oui, De Gaulle disait la politique ne se fait pas à la corbeille. Et De Gaulle, comme une partie de la droite et une partie de la gauche en France, déteste l'idée que l'économie soit première. Une bonne partie de mon livre est précisément destinée à montrer que Macron est à une philosophie, ce qu'il appelle lui une idéologie, sans mettre dans ce terme les aspects négatifs qui peuvent nous avoir été donnés par le marxisme. Il ne s'agit pas d'une idéologie au sens quelque chose qui dissimulerait, une théorie qui dissimulerait une pratique, mais au contraire, quelque chose qui donne son sens à une action politique. Et il me semble que la grande différence de Macron et ce qui probablement a fait son succès, c'est que précisément les gens, de manière relativement diffuse et inconsciente, ont senti que ce projet était habité par une vision du monde. Et que cette vision du monde, oui, elle est libérale, bien entendu, mais je remarque que vous voulez absolument faire de Macron un progressiste au sens qui vous déplaît, alors que vous avez Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui, dans le moins qu'on puisse dire, est qu'il fait une politique plus conservatrice que celle que faisait Luc Ferry quand il était lui-même aux affaires.
C'est la même. D'ailleurs, je l'aime beaucoup pour ça aussi.
Donc, le progressisme de Macron est des plus ambigus en réalité. Il est progressiste, oui, dans le sens où il pense qu'un certain nombre de blocages ont empêché la société civile de s'exprimer, de montrer ses potentialités, pas seulement économiques, mais aussi politiques et culturelles. La grande idée, à mon avis, une des grandes idées du macronisme, si telle expression peut être utilisée, c'est l'idée qu'il faut débloquer les situations, qu'il faut donner la mobilité aux gens, leur chance, enfin tout ce qu'il a pris chez Amartya Sen. Alors bon, c'est peut-être un libéral anglo-saxon, mais enfin c'est un libéral bien utile. L'idée des capacités, l'idée que ce qui importe, ce n'est pas de réparer en aval les catastrophes sociales, mais essayer de les éviter en amont, pas faire du soin palliatif, comme il dit sur le plan social, ce qu'on a fait depuis toujours et qui fait qu'aujourd'hui notre système social est à bout de souffle, ne serait-ce que sur le plan financier, avec 34% du PIB consacré aux dépenses sociales, ce qui est un record d'Europe. Nous avons là dépasser les Suédois. Donc nous voyons bien que notre modèle est à bout de souffle, tant sur le plan politique que sur le plan économique et social. Et l'idée macronienne, c'est de laisser les énergies qui ont été étouffées par la bureaucratie ambiante s'exprimer à nouveau, accompagner le mouvement des gens qui ont des projets personnels. Et ça, oui, c'est libéral, mais libéral de gauche, dans la mesure où il s'agit de donner que l'État donne les moyens aux gens de leurs ambitions, de leurs projets.
À ce moment-là, Biscuterie, vous êtes plutôt d'accord avec la formule de Macron,
oui.
Non pas ni droite ni gauche, mais et droite et gauche. Ni droite ni gauche, c'est la formule populiste, alors que celle et droite et gauche est une formule inclusive, pour reprendre le terme utilisé par Philippe Reynaud dans son livre.
C'est gaulliste. De Gaulle aussi était de droite et de gauche.
C'est exactement l'inverse, puisque encore une fois, les partis de droite et de gauche, les quatre, que ce soit l'extrême gauche ou la gauche démocratique, que ce soit l'extrême droite ou la droite républicaine, sont en dehors du gouvernement. Encore une fois, ce sont des personnes. Et ça s'est toujours fait. Il y a eu des Sarkozy a débauché aussi trois ou quatre personnalités de gauche. Bon, et donc ça s'est toujours fait depuis Soissons. Souvenez-vous. Bon, non. Les grands partis, c'est en effet ni droite ni gauche. Les grands partis de droite et de gauche restent en dehors du jeu politique. Et c'est bien ça qui m'inquiète.
Oui, mais
alors j'ai exactement l'idée inverse de Brice Couturier. Je lui dis amicalement parce que je pense que justement ce qui caractérise le libéralisme, et je suis suis aussi un libéral, comme vous. Ce qui caractérise le libéralisme, c'est l'absence totale d'idées. C'est le pragmatisme absolu. Et c'est ça qui caractérise, à mes yeux, Macron. C'est l'absence absolue de vision du monde. C'est-à-dire que c'est la seule vision du monde, c'est fluidifier, c'est liquéfier, c'est-à-dire c'est libéral. Donc moderniser, oui, liquéfier, fluidifier. Mais bien sûr,
c'est ce qu'il disait lui-même.
Et donc c'est l'idée libérale, si je puis dire. Mais l'idée libérale, c'est par définition même l'absence d'idées. J'avais l'autre jour, c'était très intéressant, au petit théâtre de Poche, une discussion avec mon ami Philippe Tesson. J'aime beaucoup Philippe Tesson, vrai libéral lui aussi, Dieu sait que c'est un vrai libéral. Et je défendais la thèse selon laquelle on ne pouvait pas faire de politique sans avoir une grande vision du monde et que c'est, bon, une banalité de le dire, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et je disais, mais voilà, il faut, c'est ce qui manque à Macron, c'est une grande vision du monde. Il est un pur libéral, en effet libéral de gauche, d'accord, centriste, mais il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision du monde, il n'y a aucun grand dessin. Bon, il n'y a pas une idée chez Macron, sauf des idées précises, libérales, comme code du travail, flat tax de 30%, etc. Fluidifié. Et donc, Tesson me répond la chose suivante, je me permets de le citer, il me répond en gros, mais arrête de nous emmerder avec ta philosophie, ça ne sert à rien. La bonne nouvelle avec Macron, c'est que c'est un pur pragmatique, c'est un économiste. On est dans l'économisme de marque. Et ce qui est génial avec Macron, et c'est ça qui plaît aux chefs d'entreprise et au MEDEF, eh bien, c'est que justement, il n'y a pas une idée dans sa politique. C'est un pur pragmatique. Donc, c'est étrange, en effet, de la part de quelqu'un qui a fait une maîtrise de philo, sur Hegel, je crois d'ailleurs. C'est ce qui caractérise le moment Macron, c'est au contraire la fin absolue des idées en politique. Même Sarkozy était plus passionné par les idées que Macron. Il avait au moins Henri Guénaud autour de lui, voilà. Hollande, déjà, c'était la fin de tout. Mais Macron est un vrai Hollandais de ce point de vue-là. C'est quelqu'un qui est un pur libéral de gauche, c'est-à-dire, en effet, un pragmatique économiciste, comme on disait dans la tradition marxiste à l'époque. L'économie est tout. Et d'ailleurs, du coup, la seule chose qui reste chez Macron de très forte, c'est la com. Ah, sur la communication, il est formidable. Signer, en effet, les lois devant les caméras, annoncer zéro SDF, ce qui n'a évidemment aucun sens, mais l'annonce est sympathique. Service obligatoire de un mois, quand il a annoncé le service obligatoire de un mois, service militaire obligatoire de un mois. J'ai hurlé de rire parce que, ayant travaillé pendant 2 ans sur le sujet, je sais que c'est totalement impossible. Évidemment, l'annonce est sympathique, les gens sont pour. On va lutter contre les fake news. Très bien, les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Je regarde mon Figaro, 67% des Français sont pour, enfin, même l'acteur du Figaro, bien sûr, qui est pour le mensonge. Tout ça sont des annonces de com, il n'y a rien derrière pour l'instant, ou très peu de choses. Et donc c'est un vrai libéral pragmatique qui maîtrise la communication encore mieux que Sarkozy. Sarkozy a une phrase géniale, il a dit « Macron, c'est moi en mieux ».
Est-ce que tu riez ? Que répondez-vous,
oui,
à ce réquisitoire ?
D'abord, je trouve étonnant de la part d'un libéral de dire que le libéralisme, c'est l'absence d'idéologie, l'absence de philosophie, l'absence de projet et le pur pragmatisme.
Tu parlais du libéralisme économique.
Moi, oui. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, le libéralisme, c'est une philosophie assez complète, une philosophie qui prône en particulier l'émancipation de l'individu. Que dans le cas de Macron, c'est pour ça que j'ai fait un livre sur ce sujet, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en amont des réformes qui sont proposées, il y a une vision du monde et qu'elle est extraordinairement cohérente, elle peut plaire ou déplaire. Elle
dis-moi
a plu
laquelle,
à une majorité.
J'aimerais beaucoup savoir laquelle.
Par exemple, l'émancipation de l'individu.
C'est pas une vision du monde, c'est une banalité. Ça, c'est...
Non, parce que les socialistes, par exemple, ne comprennent pas ce que ça veut dire. La social-démocratie traditionnelle voulait nous prendre en charge du berceau à la tombe et surtout, il y a un ensemble de révolutions de type technologique entraînées par le numérique, et ça c'est vraiment progressiste, qui exige des redéploiements intellectuels, des redéploiements politiques que Macron a compris et qu'il incarne, simplement parce qu'il est jeune et qu'il est plus
proche. Mais qu'est-ce que c'est l'émancipation de l'individu ? Est-ce que c'est l'extension indéfinie des droits subjectifs ? Alors, l'émancipation de l'individu, ça va être en effet la prolongation médicalement assistée pour tous, et puis ensuite viendra l'exigence, dès lors qu'on pense la question en termes de la gestation pour autrui, parce que pourquoi les couples homosexuels masculins seraient-ils privés de la possibilité d'avoir des enfants ? On voit aussi cette vision de l'émancipation prospérer. Et là, on peut se demander s'il ne faut pas penser en termes de limites. Parce que la confluence des droits subjectifs et des technologies peut nous amener très loin et peut-être trop loin.
Bien sûr.
Brice Couturier.
Bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très réservé sur ces aspects. Vous avez sans doute remarqué qu'il est hostile à un certain nombre de mesures qui étaient conçues par la gauche comme émancipatrices de l'individu. Non, l'émancipation de l'individu dont il est question dans le libéralisme, c'est pas l'extension indéfinie des droits. C'est l'idée que il faut aider ceux qui ont des projets à aller jusqu'au bout de leurs projets. C'est dans une société qui était bloquée, donner aux gens les moyens de la mobilité, de l'ascension sociale et physique. On a beaucoup moqué les cars Macron, mais ça me semblait un très beau symbole de ce que le personnage avait en tête. L'idée que les gens puissent bouger, sortir de l'endroit où ils vivent, comme ils peuvent sortir des situations dans lesquelles ils sont bloqués. Nous sommes dans une société bloquée. La France est un pays à la traîne, était un pays à la traîne, elle l'est encore. On peut évidemment déplorer cette mise à niveau et la juger américanisation du monde, comme le faisaient les conservateurs au XIXe siècle. Je pense que les États-Unis ont cessé depuis longtemps d'incarner la modernité et qu'il y a d'autres versions de cette modernité, notamment celle que proposent les Chinois. Donc il n'est pas du tout certain que le fait de cette mise à niveau politique, économique et culturelle soit une américanisation du monde.
Mais si je peux me permettre, cher Brice, ce que vous dites là, je partage ça, permettre à chacun d'aller le plus loin possible dans son destin, tout ça. Mais c'est ce que dit la droite traditionnelle depuis toujours, c'est ce que disait Sarkozy toute la journée. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, ce n'est pas une idée géniale, ce n'est pas un grand dessin. Et regardez à quel point, puisque vous êtes un libéral, à quel point ce libéralisme est essentiellement un libéralisme de communication. Parce qu'en vérité, le nerf de la guerre, et vous le savez comme moi, pardon, on va être un tout petit peu technique, mais juste 3 secondes. Le véritable nerf de la guerre, si on veut faire une politique libérale, c'est la réduction de la dette. Or, la réduction de la dette, c'est zéro pour l'instant, c'est que dalle. On a 98,3% de dette, c'est par rapport au PIB, 2300 milliards de dette, ce qui veut dire que tout ce qui est fait en apparence libérale, comme la réforme du code du travail ou la flat tax à 30% sur les revenus du capital, tout ça ne sert pratiquement à rien parce que c'est annulé par cette formidable dette. Même chose, Macron est très pro-européen, mais la demande de l'Europe, c'est 60% du PIB, la dette. C'est pas 98%. Donc et rien n'est prévu pour l'instant, en tout cas dans la loi de finances actuelle, pour faire une vraie politique libérale. Donc dire qu'on va libérer les énergies, la droite le dit depuis toujours, depuis Perfit, on dit ça. Bon, donc ça n'a rien de nouveau, c'est pas un grand dessin, c'est simplement le thème libéral par excellence. Bon, et ce que j'attendrais aujourd'hui de la droite républicaine comme de la gauche démocratique, c'est en effet non pas regonfler les vieilles baudruches et faire mettre du vin neuf dans des outres rouillées ou anciennes. Ce que j'attendrais, c'est en effet, et d'ailleurs aussi bien de Macron que de la droite ou de la gauche républicaine, c'est un grand dessin, mais pour l'instant je ne le vois nulle part. Voilà. Et donc sur la révolution technologique, sur la troisième révolution industrielle, à part avoir confié une mission à Cédric Villani sur l'intelligence artificielle, il n'y a rien. Il y a zéro GAFA français, il n'y a pas de BATX français, il n'y a que dalle. Et aucun investissement là-dedans. Donc même d'un point de vue strictement libéral, et si on se plaçait du point de vue qui est le vôtre, en disant voilà, il y a quelque chose de nouveau, au moins on accompagne la troisième révolution industrielle et les nouvelles technologies, il n'y a rien du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire qu'on est en train de devenir une colonie des États-Unis et de la Chine, des GAFAMI et des BATX, donc les grands dragons super-américains et chinois.
Et donc des GAFA français d'un claquement de doigts.
Là, on peut investir dans la recherche. On peut investir dans l'innovation. Mais pour l'instant, à part une mission à Cédric Villani, il n'y a strictement rien. Et quelques coucous à Las Vegas, il n'y a strictement rien au CES de Las Vegas, où des petites start-up françaises vont retenir des bons points. Mais même Ariane, c'est rien à côté de SpaceX. Et donc, il n'y a pas de prise de conscience de cette troisième révolution industrielle en termes, et là, je rejoins ce que disait Alain Finkielkraut, en termes aussi de républicanisme, c'est-à-dire de souveraineté politique par rapport aux États-Unis et à la Chine. Il n'y a aucun discours là-dessus de la part de Macron ou de ses... Enfin, moi, je ne le vois pas, je ne l'entends pas.
Si, il y a un discours qui est la souveraineté européenne. Ensuite. Et à mon avis, c'est quelque chose d'assez fondamental dans la vision de Macron. Je n'avais pas entendu aucun homme politique de droite ni de gauche parler de souveraineté européenne. Or, ça recoupe exactement le débat que nous avons en ce moment sur les GAFA et les entreprises du numérique qui nous font défaut, en effet. Vous avez raison, Luc Ferry. Mais ce n'est pas dans le cadre de la France, qui est un pays beaucoup trop petit, pour créer ce type de GAFA. C'est seulement dans un cadre européen que nous pourrions le faire, à condition que soit assoupli un certain nombre de réglementations qui interdisent les concentrations industrielles dans ce domaine en particulier. Et je pense que l'une des idées de Macron, c'est précisément d'essayer de convaincre nos partenaires européens de mettre en commun un certain nombre d'industries, notamment celle du numérique, mais aussi celle de la défense, de manière à compter, à pouvoir peser face à nos concurrents américains et chinois.
Et vous savez bien que notre dette nous rend peu crédibles au regard de l'Allemagne, c'est ça le problème. Et donc sur le projet, sur le discours de Macron sur l'Europe, très bien, je signe dès demain. Mais encore une fois, du point de vue des Allemands, ne croyez pas que Madame Merkel est dans les choux, elle va finir par faire un accord avec le SPD, elle reviendra. Et donc quand on a 98% du PIB en dette, on est absolument non crédible par rapport au seul pays qui compte en Europe aujourd'hui, c'est-à-dire l'Allemagne. Et même par rapport à l'Espagne, à l'Italie et à la Grande-Bretagne qui est partie, on est ridicule. Et donc ce discours passe à nouveau pour un discours arrogant parce qu'il n'est pas crédible. Macron n'a pas fait ce qu'il fallait sur la dette publique pour être crédible vis-à-vis de l'Allemagne, et vous le savez très bien.
En même temps,
là, on parle en libéraux.
L'un des projets, vous dites, Luc Ferry, que Macron n'a pas de vision. On ne fait rien pour créer des GAFA à la française. Je ne sais pas d'ailleurs si une telle création serait merveilleuse. En tout cas, ce que je constate, c'est que Macron nous dit qu'il faut que la France devienne une start-up nation. Il l'a dit à plusieurs reprises. Et c'est là que je suis un peu, si vous voulez, étourdi par le « en même temps » de Macron, qui n'est pas le « en même temps » du compromis, de la synthèse, de la nuance, mais quelquefois le « en même temps » du grand écart. Parce que il veut s'inscrire dans une belle continuité historique. Il se réfère à des grandes figures. Il a fait un discours sur Jeanne d'Arc. Il a été intronisé au Louvre. Et d'un autre côté, la France dont il parle, c'est une start-up nation. Il fait un éloge de la langue française et il s'entoure de helpers, de coworkers, il crée des polyvents, il dit qu'il faut travailler non pas bottom-up et non pas top-down, il fait du team-building, on est dans les process, etc. Donc là, tout ça pour donner le sentiment que la France va devenir une start-up nation et surtout pour donner le sentiment qu'il va gérer la France comme une entreprise.
Ah oui, c'est l'économie.
Est-ce cela dont la France a besoin ? Est-ce ainsi que il va galvaniser les Français ? Est-ce que ceux-ci vont se reconnaître dans ce grand projet-là ? Et tout à l'heure, je parlerai peut-être du choc civilisationnel à laquelle la France est soumise. Et je réfléchirai avec vous sur la question de savoir si Macron est prêt à y répondre. Mais voilà ma question.
Il n'y a pas que la gestion, évidemment. La gestion est essentielle, mais il y a autre chose qui est la réconciliation des mémoires dans notre pays. Nous savons bien qu'il y a une espèce de guerre entre des mémoires blessées. Vous allez venir au sujet du multiculturalisme, je vous sens venir. Un des grands projets de Macron, c'est cette réconciliation entre les mémoires concurrentes, entre en concurrence entre elles. Il a donné plusieurs interviews à des revues d'histoire, et ici à notre collègue Emmanuel Laurentin, dans lequel il a beaucoup insisté sur cet aspect. Comme on sait, c'est quelqu'un qui est extrêmement préoccupé de l'histoire du pays, et ça montre bien que c'est quelqu'un qui a le sens d'une continuité historique et qui n'est pas dans, comme le disent ses adversaires conservateurs, dans le jet continu d'une nouveauté sans fondement. Start-up nation, ça vous choque.
Ça ne m'enthousiasme pas.
Voilà. c'est peu dire. On s'en doutait. Écoutez, quand on voit les retards accablants qu'a pris notre pays par rapport au monde, je pense à la Chine en particulier, quand on voit que notre capitale est en train de devenir une ville musée où la circulation est bloquée, on a envie effectivement, enfin les plus jeunes en tous les cas, ceux qui s'en vont parce qu'ils supportent plus la situation de blocage que nous connaissons depuis 25 ou 30 ans, ont envie effectivement de se mettre au diapason d'un monde en ébullition autour de nous. Alors peut-être que c'est oui une forme d'américanisation, vous n'avez pas tort, mais enfin, comment reprocher à Macron de faire comme De Gaulle aussi en 58, simplement vouloir mettre le pays au diapason de son environnement. Par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec Luc Ferry quand il dit que pour l'instant, nous ne voyons rien venir sur la question des déficits et de la dépense publique et que c'est absolument dramatique.
Et moi, je reconnais beaucoup de choses. Ce que vous venez de dire là, je le signe aussi volontiers. Je ne pense pas que bloquer le pays, être anti-libéral fanatiquement, comme on l'a été pendant des décennies en France, soit une bonne solution. Encore une fois, vous savez, j'aime beaucoup ce petit texte de Victor Hugo dans Les Misérables que j'ai retrouvé un jour par hasard. J'adore Victor Hugo quand il est télégraphique, ce qui lui arrive rarement, mais quand il est télégraphique et qu'il écrit dense, il est vraiment merveilleux. Il dit ceci, politique, deux problèmes. Premier problème, produire la richesse, deuxième problème, la répartir. Il ajoute ceci, l'Angleterre résout admirablement le premier problème, la production de la richesse, très mal le second, pays très inégalitaire. Le communisme prétend résoudre le deuxième problème, le problème de la justice et de la répartition, mais c'est le partage du boucher qui est obligé de tuer ce qu'il veut partager. Hein, c'est, je cite de mémoire, mais je change quasiment pas de vie. Voilà pourquoi je suis démocrate et républicain. Je pense que le libéralisme est le seul système qui produise de la richesse et que, après, la question du partage est fait l'objet, finalement, du débat droite-gauche, dont j'aimerais qu'il revienne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on veut aller plus loin et pas simplement accabler ou défendre Macron? C'est sans intérêt, finalement. Je pense que nous vivons deux révolutions dont il faudrait prendre conscience si on veut parler de grand dessein, parce que dire il faut retrouver un grand dessin puis se battre les flancs, et les intellectuels généralement n'en proposent aucun, pas plus que les politiques, je veux dire, ça ne sert à rien. Il y a deux révolutions qui sont en train de bouleverser le monde. Il y a la troisième révolution industrielle, c'est celle de l'intelligence artificielle. Et donc Macron en a pris conscience puisqu'il a confié une mission à Cédric Villani, mais c'est pas plus que ça. Et pour l'instant, il faut savoir que des gens comme Yann Lequin, qui est français, et qui est le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook. J'ai pas son salaire exact, j'en sais rien. Mais en gros, en tout cas, ce type de profil s'est payé 1 million par mois. Bon, 1 million de dollars par mois. Au CNRS, j'étais chercheur au CNRS, on gagne 2 500 ou 3 000 euros en fin de carrière. Bon. Donc, il y a un vrai problème de ce côté-là. Et il y a une deuxième révolution qui est en... Et donc, c'est un problème pas simplement de libéralisme économique, c'est un problème de souveraineté politique. Et bien sûr que ça passe par l'Europe. Bien sûr que vous avez raison. Mais encore une fois, faut-il être crédible pour avoir une politique européenne? Et la deuxième révolution que nous vivons, c'est l'inversion du rapport entre vie privée et vie publique. Je parle pas du fait qu'on parle de la vie privée des hommes politiques. Ça, c'est sans intérêt, et cette américanisation-là me déplaît. Mais je parle du fait qu'aujourd'hui, le rôle de l'État, le rôle de la politique a changé, même par rapport aux années 60. Le rôle de l'État, c'est en effet de permettre aux individus d'épanouir leur vie. Autrement dit, le rôle de l'État, c'est d'être l'auxiliaire de la société civile et non pas le punitif de la société civile. Or ça suppose qu'on réfléchisse vraiment à ce qu'est un grand dessein philosophico-politique aujourd'hui, et je ne sens encore une fois chez Emmanuel Macron que le côté libéral, je ne vois pas le côté État. Si vous voulez, je ne vois pas ce qui fait de l'État. L'État, c'est très important parce que c'est le cerveau de la société, c'est le lieu où la société prend conscience d'elle-même pour dégager l'intérêt général. L'intérêt général, la société civile ne suffit pas à le dégager, contrairement à ce que disent les libéraux. Il faut aussi ce moment étatique de conscience de soi et de réflexion sur ce qu'est l'intérêt général. Voilà, et c'est ça qui me manque. Il me manque la deuxième jambe, en quelque sorte, du texte de Victor Hugo que je citais tout à l'heure.
Est-ce que vous répondez, oui. Puis j'aurai une question à poser.
D'accord. Bon, écoutez, il y a des pages dans Révolution, le bouquin de Macron, où il montre que ce qui fait finalement l'identité de la France, c'est précisément la République et donc le rôle absolument central et décisif de l'État. C'est un libéral qui n'est pas du tout anti-étatique. D'ailleurs, c'est un libéral qui est plutôt autoritaire, entre parenthèses.
Oui, mais parce que c'est pas ma tasse de thé, ça. Il est monarchique, mais c'est pas ça le rôle de l'État démocratique. Il est jupitérien monarchique, c'est-à-dire qu'il décide tout seul et il est très autoritaire. Mais c'est pas ça le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est le lieu, encore une fois, où se dégage l'intérêt général. Pardon, je vous ai interrompu, c'est grossier.
Non, mais je suis d'accord avec l'idée qu'il y a deux révolutions en cours et que l'une d'entre elles, c'est l'intelligence artificielle et l'autre, c'est l'inversion du rapport entre public et privé. C'est assez décisif. Nous vivons entourés de révolutions et jusqu'à présent, l'exception française, c'était de faire semblant de ne pas les voir, de vivre à l'écart et de préserver un modèle qui s'effritait de toutes parts, qui prenait l'eau et qui refusait de se modifier. Entre parenthèses, une petite précision. Savoir que la flat tax à 30%, c'est pas libéral. C'est les Scandinaves qui font ça. Les Suédois, les Norvégiens, les Danois, tous ont la flat tax à 30%. Nous alignons simplement sur... On ne peut pas dire que ce sont des ultra-libéraux, n'est-ce pas? Contrairement aux gens qui prétendent que Macron est un ultra-libéral en ayant abaissé ainsi l'impôt sur le capital à 30%. Il n'a fait que s'aligner sur les social-démocraties nordiques.
Oui, mais c'est une mesure MEDEF quand même. C'est applaudi par le MEDEF. À juste
l'essentiel,
titre. C'est une bonne mesure,
c'est que le capital ne s'en aille pas.
Qu'on
soit plus taxé que les Suédois, c'est quand même aberrant.
D'accord.
Bon, alors,
tout à fait d'accord.
Voici maintenant ma question. Oui, je reviens à l'économisme de Macron, parce que il y voit quand même la solution à l'un des problèmes majeurs de notre pays, c'est-à-dire le morcellement, la communautarisation, la fracture française, pour reprendre une expression de Gilles Kepel. Il dit ceci, « Si le communautarisme, notamment religieux, a prospéré, c'est bien sur les ruines de nos politiques économiques et sociales, la société statutaire sans perspective de mobilité a créé du désespoir social. » Voilà. Donc, la mobilité va sortir les gens du désespoir et il n'y aura plus cette communautarisation et peut-être même n'y aura-t-il plus de terrorisme. Il me semble que c'est une vision tout à fait irénique. Le problème n'est pas de cet ordre et beaucoup de Français en ont conscience. En effet, la France s'est transformée peu à peu en société multiculturelle de fait. Je ne fais pas à Macron le procès qu'on lui a fait en multiculturalisme.
Oui, c'est pas ce
qu'il dit, et on a pu le penser à travers certaines déclarations de campagne sur l'absence de culture française, qu'il était le Justin Trudeau à la française. Non, ce n'est pas le cas. Cela dit, cette société multiculturelle se constitue, d'où, en effet, l'apparition en France d'un réflexe conservateur. C'est pas tout d'un coup crispation sur les privilèges, sur les avantages acquis, refus de toute mobilité. C'est l'idée, l'insécurité culturelle, même plutôt une inquiétude civilisationnelle. La France pourra-t-elle, et jusqu'à quel point, persévérer dans son être? Cette inquiétude est très répandue, aussi bien d'ailleurs à gauche qu'à droite, et il me semble que précisément là, il y a un choc civilisationnel se produit, et qu'avec son économisme, Macron n'est pas tout à fait en mesure d'y répondre. Alors certes, il me semble qu'il y a des prises de conscience dans son gouvernement, maintenant, qui tranchent avec certains arguments de la campagne, notamment sur les questions de laïcité. Il était pour une laïcité ouverte contre une laïcité de confrontation. Le comité laïcité que Jean-Michel Blanquer a créé va plutôt dans le sens d'une laïcité intransigeante, non pas de confrontation, etc. Reste que le problème se pose et que ce n'est pas simplement en vilipendant le conservatisme qu'on le résoudre, ni en pensant que la solution est purement économique. Luc Ferry.
Là, il est sur une ligne à la Juppé, si je puis dire, ce qui n'est pas, c'est pas une insulte, loin de là, mais pas du tout sur la ligne Valls. Il y a deux choses qu'il faut noter sur cette question-là. Et en effet, moi non plus, j'essaye d'être honnête et je ne ferai absolument pas le procès à Macron d'être multiculturaliste à la Justin Trudeau. Ce serait mensonger, il l'a dit X fois, il faut entendre ce qu'il dit. Mais il y a deux problèmes. Il y a un premier problème, c'est comme chez Fabius, ça avait dit, il ne faut pas parler d'islamisme, il faut parler de terrorisme. Parce que ça n'a aucun rapport avec l'islam. Mais ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Ça a beaucoup de rapport avec la religion.
Il ne voulait même pas dire qu'on dise État islamique, il voulait qu'on dise Daesh, parce que le mot islam disparaissait. Voilà.
Alors, c'est à la fois le politiquement correct, mais en plus, c'est une absurdité sur le plan intellectuel, parce que c'est méprisant, même à la limite, à l'égard de Daesh, parce que des gens qui vont se faire exploser avec une ceinture autour d'eux, s'ils n'ont pas une dimension religieuse, je ne sais pas de quoi on parle. Parce qu'il faut évidemment qu'il y ait du sacré pour que le sacrifice soit possible. Et donc, l'explication que donne Macron, qui est l'explication sociologiste, économiciste, traditionnelle, voilà, s'ils sont fanatiques, c'est parce qu'il y a de la misère dans les banlieues, ça sous-estime évidemment le poids absolument considérable de l'idéologie. Ça renvoie à un débat d'ailleurs extraordinairement profond. Qu'est-ce qui mène le monde? Est-ce que ce sont les intérêts ou les passions? Évidemment que c'est les passions. Marxistes et libéraux se sont toujours trompés à égalité sur cette question-là. Ce sont les passions qui mènent le monde, et notamment les passions nationalistes et religieuses. Et donc, on ne peut rien comprendre à quelqu'un qui devient un kamikaze, qui se suicide, si on ne voit pas que le sacrifice est lié au sacré, évidemment, qui a une dimension religieuse très forte. Hein, d'ailleurs, quelqu'un comme Éric Zemmour disait, bon, j'aime pas Daesh, mais au moins je les respecte parce qu'eux, ils sont capables de se faire exploser pour leurs idées. Nous, pas. Voilà. Et donc, on passe complètement à côté quand on donne l'explication sociologique. Ensuite, quand Macron déclare, j'ai là la citation exacte quand il est à Abu Dhabi, parce que Macron, bon, quand même, moi je le connais un tout petit peu, mais il n'y a pas besoin de le connaître beaucoup pour savoir que c'est quand même quelqu'un qui a en tête quelque chose, il veut être aimé ce garçon, bon, il veut absolument plaire, bon, c'est quand même une composante de sa personnalité qui est très apparente, il est à Abu Dhabi devant le public qu'on imagine, et voilà ce qu'il déclare. Ceux qui veulent faire croire où que ce soit dans le monde que l'islam se construit en détruisant les autres monothéismes sont des menteurs et ils vous trahissent. Ben dis donc, pour prononcer cette phrase-là, quand on est un président français, faut quand même avoir une sacrée audace. Parce que quand on voit ce qui se passe dans les théocraties islamistes, il fait pas bon être chrétien ou juif. Bon, donc c'est gentillet, quoi. Ça passe complètement à côté d'une question quand même centrale, qui est la question de savoir quel est le lien entre islam et islamisme. On peut pas laisser cette question de côté. Exactement comme, pour prendre une analogie, on ne pouvait pas laisser de côté la question des liens entre marxisme et stalinisme, ou marxisme et maoïsme, ou marxisme et trotskisme. Donc c'est un vrai sujet. Il ne s'agit pas d'insulter les gens, il s'agit de réfléchir quand même à la dimension religieuse et fondamentalement religieuse de l'islamisme aujourd'hui. Donc, et si on passe à côté, je crois d'ailleurs que quand Macron est allé en Chine, il a visité une mosquée. C'est ce qu'on m'a dit. Sous réserve de vérification. Enfin, on m'a dit ça tout à l'heure. J'ai pas vérifié moi-même, mais voilà, j'ai trouvé ça très significatif de cette volonté de réconciliation qui en soi est sympathique et bonne, bien sûr, mais qui risque d'être extrêmement naïve.
Citation contre citation dans Révolution, le livre de Macron. Je lis plus largement: la décomposition sociale que nous vivons alimente le feu identitaire, qui en retour paralyse notre capacité à agir ensemble. Je lis également. Alors effectivement, il y a chez Macron cet aspect sociologique qui tendrait à considérer que les aspects culturels sont subordonnés à l'économie, là encore, dans l'intégration des immigrés. Oui. Mais il y a des choses assez fortes. Il parle, deux pages plus loin, page 174, d'une bataille culturelle à mener contre les associations salafistes. Et il explique pourquoi. C'est que ces associations quadrillent les quartiers, procurent aide et assistance en lieu et place des services publics. N'ayons pas peur, nous aussi, de conduire une lutte implacable contre elles. Donc on voit bien qu'il a envie d'articuler, enfin qu'il souhaite articuler la bataille culturelle de reconquête des esprits avec la bataille pour ce qu'il appelle la reconquête positive des quartiers, c'est-à-dire procurer aux gens simplement des opportunités, de la mobilité, mais aussi de la dignité. Quand il y a 50% de chômeurs ou 40% de chômeurs, comment voulez-vous que les idéologies islamistes ne prospèrent pas ? Les gens cherchent une dignité, ils ne la trouvent pas puisqu'ils n'ont pas de travail, ils touchent le RSA et ils sont très humiliés d'être réduits à cette espèce de mendicité. Par conséquent, il est logique qu'un certain nombre d'entre eux se réfugient effectivement dans des idéologies millénaristes et apocalyptiques.
Il ne s'agit pas simplement de ces idéologies millénaristes, du terrorisme, qui est un phénomène paroxystique. Il s'agit aussi du climat qui règne dans ces quartiers, que Christophe Guillouis appelle la guerre des yeux, du sort réservé aux pompiers, aux professeurs, aux médecins, aux policiers. On a vu ce qui s'est produit la nuit de la Saint-Sylvestre à Champigny-sur-Marne et à Aulnay-sous-Bois. C'est un climat général extrêmement tendu, extrêmement violent, et l'explication économique semble un peu courte. Et d'ailleurs, vous dites aussi, vous semblez être d'accord, Brice Couturier, parce que vous dites que, et c'est le dernier mot de votre livre, Macron aura bien du mal à réconcilier les Frances. Ce que Jérôme Fourquet appelle le bloc élitaire face au bloc populaire, et c'est pas simplement le bloc populaire, cette France que l'on dit conservatrice parce que tout simplement elle veut persévérer dans son être et qu'elle se demande si ce sera encore possible, vous semblez dire que Macron n'est pas forcément le mieux placé pour la réconcilier avec la France gagnante, avec la France qui se réjouit de la mondialisation et qui, dans certaines métropoles, vit à l'abri des plus graves problèmes qui se posent aujourd'hui, qui peut ne pas voir cette fracture à l'œuvre. Brice Couturier.
Je ne cache pas qu'effectivement je suis inquiet. Il y a effectivement au moins deux France, sinon plusieurs, sinon davantage. Il y a effectivement, je reprends les thèses de Guillouis, entre la France périphérique et la France des métropoles, hyper connectées. On pourrait aussi citer là David Goudis avec People of Anywhere et People of Somewhere. Les gens qui ont des racines dans un lieu, qui ont peu d'occasions de mobilité et qui tiennent aux solidarités locales, aux modes de vie traditionnels qui sont les leurs et qui ne veulent pas les voir supplantés et remplacés par d'autres. Et ce qu'on peut comprendre en effet. Et vous avez les gens de anywhere, les gens de partout, qui eux sont détenteurs de bagages culturels portatifs, qui sont capables de s'installer demain ou à Londres ou à Shanghai, et qui n'ont pas évidemment ni les mêmes intérêts ni la même vision du monde. Et nous voyons bien qu'il y a effectivement pas seulement en France, aux États-Unis, et l'élection de Trump en a été l'illustration. En Grande-Bretagne, avec le Brexit, nous voyons bien que ces deux mondes sont aujourd'hui en forte opposition. D'ailleurs, les porte-à-porte qu'a fait le mouvement En Marche l'été dernier, avant les élections, montraient, ils le disent eux-mêmes dans leur rapport, qu'ils voyaient des gens des deux côtés, ceux qui détestent la mondialisation et en ont peur, et ceux qui l'adorent en voyant en termes d'opportunités. Donc la question, c'est de réconcilier ces deux mondes, et c'est une tâche extrêmement difficile. Et la question aussi, c'est de savoir de quel côté Macron lui-même est perçu. Évidemment, il est perçu par la France périphérique comme l'incarnation même de cette France des urbains connectés, des métropoles à l'aise et heureuses de la mondialisation.
Luc Ferry,
c'est très intéressant ce débat, en effet, ouvert par Guy Louis. D'ailleurs, la citation anglaise que je connaissais, que vous citiez tout à l'heure, elle est très belle. Ces gens qui sont de quelque part et ceux qui sont de nulle part, qui sont dans la mondialisation et les autres dans le terroir. Le problème avec les libéraux, ils ont toujours commis la même erreur, hein, que ce soit chez Macron, que ce soit dans la droite libérale habituelle, républicaine, c'est toujours la même erreur, qui est une erreur de bonne volonté d'ailleurs, qui n'est pas une erreur bête, c'est une erreur intelligente si je puis dire, mais c'est une erreur quand même. Ils se disent au fond, bon bah si je fais en sorte que l'économie aille mieux, le chômage diminuera et par conséquent, ça c'est vraiment ce que je fais de bien pour la France périphérique, voilà. Et du coup, c'est pas la peine de lui parler, parce que d'abord je sais pas trop lui parler, j'ai pas les mêmes costards, comme pour parler comme un homme, faire une petite allusion, je viens pas du même endroit, j'ai pas les mêmes revenus, donc je sais pas trop lui parler. Mais si ce que je fais pour l'économie c'est bien, ça rejaillira, c'est pas le ruissellement, c'est pas ça, c'est profond, ça rejaillira sur l'emploi dans les banlieues, donc tout ira mieux. Mais c'est encore une fois, et là Alain Finkielkraut a raison, c'est toujours une thèse économiciste et sociologiste, et c'est pas suffisant pour comprendre ce qui se passe.
C'est très bien de terminer par cette phrase, Alain Finkielkraut a raison. Merci beaucoup Luc Ferry.
On sait qu'on
merci Brice Couturier. Je rappelle, Brice Couturier, le titre de votre livre, Macron, un président philosophe. Il est publié aux éditions de l'Observatoire. Luc Ferry, vous venez de publier vos chroniques du Figaro, 2014-2017, chez Plon, où il est notamment question de Macron. Et je voudrais citer aussi le livre de Philippe Reynaud, Emmanuel Macron, une révolution bien tempérée, aux éditions des Clés de Brouwer. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Était-ce ou non mieux avant ?» Mon invité sera Michel Serres. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Olivier Dupré. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.